Vous connaissez la devise des trois mousquetaires.
Un pour tous.
Et tous pour un.
Mais savez-vous que D'Artagnan a réellement existé et que le roman a été écrit à quatre mains? Voici comment Alexandre Dumas a transformé une simple anecdote historique en mythe littéraire moderne.
Ce n'est plus deux, mais trois visites que le Panthéon décousu consacre à Alexandre Dumas et à ses mousquetaires. Après le Dumas intime avec le comte de Monte Cristo, le Dumas historique est spécifiquement celui des mousquetaires. Bonjour et bienvenue dans cette 20e visite de la saison 6 du Panthéon décousu sur Radio Alpa 107.3 au Mans et radioalpa.com partout ailleurs. S'il y a une œuvre multiplement adaptée, reprise, voire détournée, c'est bien nos trois mousquetaires. Après une opérette et un film muet comique, un siècle plus tard, elle se compte par dizaines et le roman comme son sujet furent abordés, nous le verrons, sous tous les angles. Ainsi, début avril, sur France Culture.
Mars 1844. Alexandre Dumas est un auteur populaire âgé de 42 ans. L'auteur, comme ses comparses du mouvement romantique, est fasciné par l'histoire de France.
L'histoire est très en vogue.
Julie Anselmini, professeure de littérature française.
Au 19e siècle, hein, siècle de révolution qui éprouve le besoin de comprendre le passé national, de comprendre ses racines.
Dumas commence à publier Les Trois Mousquetaires sous forme de feuilleton quotidien dans le journal Le Siècle. Il raconte l'arrivée à Paris d'un jeune gascon, D'Artagnan, qui rejoint la compagnie des mousquetaires du roi Louis XIII.
D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille ?
Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi.
Dumas s'inspire d'une anecdote historique, l'affaire des Ferré en 1625. Le cardinal Richelieu, l'homme fort du royaume, tente de discréditer la reine Anne d'Autriche grâce à ses bijoux en la faisant passer pour une épouse infidèle. Alexandre Dumas brode autour de cette histoire, mais il n'est pas le seul auteur. Il collabore avec un autre écrivain moins connu que lui, Auguste Maquet.
D'après les correspondances ou les témoignages, un plan est élaboré en commun, une trame, un travail de documentation historique important réalisé par Maquet, qui propose une première version à Dumas qui l'amplifie, introduit des dialogues, développe des scènes, injecte aussi dans cette trame tout son génie de dramaturge.
Or, ça tombe bien, il existe un film sur la relation Maquet-Dumas. L'autre Dumas est réalisé en 2009 par Safine Bou, mix entre la bande-annonce et un sujet du JT de France 2 à sa sortie le 5 février 2010.
Chacun de ses mouvements semblait le résultat du jeu d'une mime. Elle ne vivait pas, elle bondissait.
C'est du très beau théâtre, Alexandre.
Gérard Depardieu est Alexandre Dumas.
Vous vous lancez ?
Vous l'aurez dans 2 heures.
Faites le brouillon, je m'occuperai du reste.
Accordez-moi 1 heure supplémentaire et je vous fignole les dialogues.
Benoît Poelvoorde, Auguste Maquet, son aigre littéraire, 11 ans durant. Alexandre Dumas et Auguste Maquet ont écrit ensemble Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot. L'un est un génie, l'autre pas, mais ils ne peuvent se passer l'un de l'autre.
C'est magnifique, Alexandre.
Sans Auguste Maquet, Dumas n'aurait pas pu être aussi libre. Et je pense que c'est vraiment l'histoire d'une amitié avant tout.
Une amitié mise en péril à cause d'un quiproquo.
Monsieur Dumas, vous voulez bien m'écrire une petite dédicace ?
Quel est votre prénom ?
Charlotte.
Pour les beaux yeux d'une jeune révolutionnaire, Maquet se fait passer pour Dumas.
Monsieur Dumas, je vous voyais pas comme ça.
Et comment est-ce que vous m'imaginez ?
Plutôt comme ce monsieur, là. Monsieur Dumas, vous voulez bien m'écrire une petite dédicace ?
Quel est votre prénom ?
Charlotte.
Lorsque nous étions retrouvés, je me suis fait passer pour vous. J'ai pas pu résister à la tentation.
Il faut que je vous remercie. Grâce à vous, j'ai passé une nuit délicieuse.
Vous n'avez pas fait ça.
Charlotte, vous êtes un cadeau tombé du ciel.
La fiction se mêle à l'histoire, révélant un auteur entièrement mu par ses pulsions.
Vous n'avez donc pas vu que je l'aime.
C'est un personnage qui mange la vie et qui est extrêmement séduisant. On ne peut pas en vouloir, même s'il est horrible. C'est un personnage odieux. Il a toujours des côtés désarmants.
Ils n'ont même pas voulu de vous à l'Académie française. Pour eux, vous êtes un divertissement national, un bouffon. Vous attaquez en justice.
D'ailleurs, Maquet n'aura de cesse de revendiquer son rôle de co-auteur sans jamais obtenir gain de cause.
Qu'est-ce que c'est que d'être en guerre contre moi ?
Je dirais aux journalistes que je suis à la source de toutes nos œuvres. Il faut parfois bien des mensonges pour découvrir la vérité.
L'ogre devant son miroir, c'est ce que fut sans doute Dumas face à Maquet.
Vous disiez quoi ? C'est écrit en toutes lettres. La reine Margot part, Alexandre Dumas.
Vous vous surpassez.
Le véritable Dumas, c'est moi.
Les Trois Mousquetaires datent de 1844. L'année suivante sont publiés 20 ans après la suite et La Reine Margot inaugurant une trilogie autour des guerres de religion de Catherine de Médicis, ses fils tous rois, dont Charles IX complètement fou, ses brus, dont Marguerite Margot, incarnée en 1994 par Isabelle Adjani dans le film culte de Patrice Chéreau avec la musique de Goran Bregovic.
Bienvenue dans la famille, Henri. C'est une famille un peu particulière. Mais pas si mal, tu verras.
Hier soir, j'ai attendu que tu frappes à ma porte. Tu avais promis de me dire, de venir me dire au revoir.
Oh, mais pourquoi se dire au revoir? Rien n'est changé. Je t'aime, je suis toujours là.
Tu vas partir à ton mari maintenant.
Il ne sera jamais mon mari. Il sera toujours mon frère.
Chaque jour, un messager partira en Pologne.
Messager, conspirateur, d'accord. Quelqu'un de pur, note bien. Mais il baisse ta femme, tout de même. Et la Nevers, elle regarde. Il paraît qu'elle aime ça. Putain, comme chausson.
Tais-toi, s'il te plaît. Arrête.
Vous connaissez pas la moule? Un rescapé. Et c'est Margot qui l'a sauvée la nuit du massacre.
C'est pas Margot, hein? Oh, Margot. Jamais devant les étrangers, je sais.
Ils ont un pacte.
Tu perds la tête, Margot.
Marie reste aveugle. Pourvu que la femme reste muette.
C'est ma soirée d'adieu qui les rend tristes.
Arrête, s'il te plaît.
Là, allez.
Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Cette cicatrice, là, sur l'épaule. Regardez, on voit les dents. C'est toi, c'est toi, Charles.
Oh,
tu as mordu Margot.
Plus depuis très longtemps.
À la télévision comme au cinéma, les romans de Dumas font succès. Comme ici, en 59, dans ce qu'on appelle alors une dramatique. De nombreux acteurs ont tourné dans ce format alliant découverte de l'histoire et grandes heures du théâtre filmé. C'est le cas ici avec D'Artagnan. Je vous laisse chercher qui l'interprète. Il a déjà 10 ans de théâtre dans les pattes et une carrière à venir au cinéma sans nul autre pareil.
Monsieur de Winter, vous n'êtes pas un monsieur le cardinal, vous êtes anglais. Vous pouvez vous abstenir.
Je suis anglais, c'est vrai, mais raison de plus pour montrer à des Français qu'on se bat en Angleterre aussi bien qu'en France. Je remplacerai le premier d'entre vous qui sera blessé, monsieur Jussac. Une dernière fois, messieurs, réfléchissez. Nous sommes 5, vous êtes 3.
Nous mourrons donc ici.
En garde! Un instant! Puisqu'il faut choisir entre le roi et le cardinal, je choisis. Messieurs, si vous le permettez, nous serons 4.
Votre nom?
D'Artagnan.
Eh bien, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, à la vie, à la mort!
Un pour tous!
Tous pour un!
Premier grand rôle de Jean-Paul Belmondo devant une caméra, c'est une caméra de c'est télévision, ouais. On vient de le voir, c'était avant
et
donc à bout de souffle,
magnifique. C'est très
et sous les auspices donc de Saint-Alexandre Dumas.
Rembobina sur LCP le 7 novembre 2021.
C'est nouveau. C'est une crêpe de caramel enrobée de chocolat et c'est tellement long qu'il faut 11 minutes pour la déguster jusqu'au bout. Trois mousquetaires. En fait, c'est presque aussi long qu'une épée.
There are six of them and we are only three.
No.
Four. What is your name, youngster?
D'Artagnan.
Athos, Porthos, Aramis, and D'Artagnan.
Forward. One for all. All for one. The action.
You ought to sleep with me. You need a good cuddle. Chase the fights away.
The romance.
Oh, Monsieur D'Artagnan. Oh.
The excitement.
Your Majesty refers to God.
I refer to Cardinal Richelieu, which is not quite the same thing. Ah, Cardinal.
Up, Cardinal. Down, Queen.
The spectacle. The splendor. The thrill. The genius of Alexandre Dumas, the brilliance of Richard Lester. One great screen entertainment. The Three Musketeers.
Et appréciez le casting de cette version américaine de 73, tournée en Espagne.
Raquel Welch, Richard Chamberlain, Christopher Lee, Geraldine Chaplin, Jean-Pierre Cassel, Faye Dunaway, and Charlton Heston in The Three Musketeers.
Et oui, il y a 50 ans, en 73, sortait une version anglo-saxonne avec, dans le rôle de Louis XIII, Jean-Pierre Cassel, le père de Vincent Cassel, le dernier Athos en date, France Culture.
Les deux écrivains trouvent leur source dans des chroniques historiques du XVIIe siècle, dans les mémoires des aristocrates de la cour comme le comte de Brienne ou la duchesse de Chevreuse. Mais ils se basent aussi sur la vie de Charles de Batz de Castelmore, le vrai D'Artagnan, qui a bien servi avec les mousquetaires du roi, mais qui serait né un peu plus tard que le personnage du roman.
Ce qui intéresse beaucoup Dumas dans cette histoire, dont il se saisit, c'est la solidarité formée par les mousquetaires, la rébellion qu'ils incarnent contre finalement le pouvoir du cardinal, d'ailleurs plutôt que le pouvoir du roi, mais contre le gouvernement. Hein.
Des valeurs de rébellion empreintent un certain romantisme qui résonne beaucoup avec la propre histoire d'Alexandre Dumas.
Rappelez-vous, nous en avons parlé dans la dernière visite.
Le jeune auteur est monté sur les barricades lors de l'insurrection des Trois Glorieuses, la révolution de juillet 1830 qui entraîne l'abdication du roi Charles X.
Il a été au cœur aussi de la révolution romantique, hein. Cette troupe de jeunes gens qui s'est fédérée autour de Hugo et de Dumas en bataillant à la fois contre les classiques et contre la censure gouvernementale.
Un coup, c'est tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire, un coup.
Bon, un dessin animé, c'est plus inoffensif. Extrait de La vraie histoire des mousquetaires en avril dernier sur RMC Story. Tous les intervenants sont historiens ou spécialistes, comme par exemple du musée de l'armée pour l'épée.
Dans le roman de Dumas, le premier défi de D'Artagnan est d'intégrer ses troupes de choc. Il est jeune, noble, désargenté et gascon.
Louis XIII, en 1622, insiste beaucoup sur la nécessité de peupler ce corps de soldats aguerris. Et donc, on va prendre énormément de ces fameux cadets de Gascogne, hein, dont D'Artagnan, en fait, a fait partie.
Le parcours de D'Artagnan est assez représentatif de celui des jeunes gentilshommes venus de leur province, qui entrent au service du roi et qui vont faire carrière.
Pour être mousquetaire, il est important pour les jeunes nobles d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins quotidiens.
Quand on entre dans la compagnie des mousquetaires, le roi ne fournit que trois choses. L'uniforme, donc la casaque, puis la soubre-veste, le mousquet et le logement. Le cheval, qui est obligatoire, puisque ce sont des fantassins montés, est à la charge du mousquetaire, ainsi que sa nourriture quotidienne, ainsi que tout le reste de ses besoins vestimentaires.
Mais plus que l'argent, il faut posséder un véritable réseau d'influence.
On n'entre pas au mousquetaire sans être recommandé par quelqu'un. En général, par un noble, un ministre ou autre.
Et pour cela, il est aussi préférable d'être gascon. Mais pourquoi cette préférence pour une région de France aussi éloignée du pouvoir? Tout simplement parce que le père de Louis XIII, Henri IV, était lui-même gascon. Alors, pour s'assurer la loyauté de ceux qui le protègent, il avait pour habitude de prendre des gentilshommes de sa région. Une habitude qui allait perdurer.
Il y a quasiment une mafia gasconne à Paris, c'est-à-dire que les Gascons vont faire venir leurs cousins, leurs frères, leurs parentèles. Dès qu'il y a un poste intéressant au niveau de l'armée, on fait venir des Gascons.
Avant d'intégrer l'unité d'élite, les jeunes hommes doivent idéalement avoir servi dans l'armée. Ils doivent maîtriser l'équitation, mais aussi la danse, tant pour le maintien du corps que pour tenir son rang.
J'ai lu quelque part que tous les mousquetaires n'étaient pas irréprochables. Beaucoup avaient la réputation d'être des voyous, de se comporter en brigands, en voleurs, en mercenaires, sans scrupules. Mais ça, c'était avant de monter en grade jusqu'aux plus hautes sphères, paraît-il. France Culture, dernière.
Alexandre Dumas et Auguste Maquet conçoivent les Trois Mousquetaires comme une épopée pleine de rebondissements au croisement de tous les genres littéraires. Le roman d'apprentissage, le roman historique, le roman de cap et d'épée, le roman d'amour, le roman chevaleresque.
Les mousquetaires incarnent un temps chevaleresque qui va prendre fin avec l'avènement de l'absolutisme et le règne de Louis XIV. Cet esprit chevaleresque résume le meilleur de la noblesse française au temps où elle n'était pas encore asservie par un pouvoir absolu.
Mais Dumas développe aussi avec ses personnages de grands archétypes romanesques. La figure du cardinal machiavélique, intrigant dans l'ombre, ou encore Milady, la femme fatale.
D'Artagnan, vous êtes le fils d'Achille ?
Oui. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi.
Rejoindrai les cadets. Et un jour, peut-être, serai mousquetaire.
Excusez-moi.
Quoi ? C'est tout ?
Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants
et à l'Angleterre ?
Oh, pardon !
Ce serait intelligent que d'avoir peur.
Votre éminence.
Milady.
Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver.
La reine préfère le déshonneur à la guerre. Elle aura le déshonneur.
Tirez ! Tirez !
Et nous aurons la guerre.
Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis.
Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4.
Enfin, un extrait probant de la bande-annonce du film de Bourboulon. Tout à l'heure, nous avons entendu Belmondo en D'Artagnan dans une dramatique. Eh bien, en 1957, une émission d'histoire, Énigme de l'Histoire, mettait en scène et en dialogue les théories les plus sûres pour essayer de dénouer de grands mystères.
Nous faisons ici, nous essayons de traiter ici, un problème historique. Notre émission est donc, en quelque sorte, une tribune illustrée. Nous illustrons des thèses par des moyens dramatiques. Et chaque fois, nous avons essayé de créer une formule différente. Mais si la forme varie, le fond demeure rigoureusement historique. Nous sommes historiens et nous ne prenons avec l'histoire que des libertés de dialogue ou de présentation.
Piloté par l'historien populaire André Castelot, nous avons tous vu au moins un de ses bouquins sur une étagère familière. Castelot, secondé par le médiatique Alain Decaux, argumentait l'identité possible, voire réelle, du masque de fer. Or, ce dernier est au centre de l'action du troisième volet des mousquetaires de Dumas. Voici comment la télé de 57 présente la chose.
Ce lundi 19 novembre 1703, le prisonnier inconnu, toujours masqué d'un masque de velours noir, est mort ce jour-là. Et ce prisonnier inconnu, gardé depuis si longtemps, a été enterré le mardi à 4h de l'après-midi 20 novembre dans leur cimetière Saint-Paul, notre paroisse. Sur le registre mortuaire, on a donné un nom aussi inconnu.
Se trouve là le gouverneur de la Bastille, encore debout, et un homme de 1957 qui le questionne. La paroisse Saint-Paul se trouve, il me semble, pas loin de l'hôtel de ville et du Marais.
Ma science ne dépasse pas mes registres destinés aux prisonniers qui entrent, sortent ou meurent à la Bastille. 1698. Tenez. Voici l'entrée du prisonnier qui vous intéresse, lisez.
Du jeudi 18 septembre à 3h de l'après-midi, monsieur de Saint-Mars, gouverneur du château de la Bastille, est arrivé pour sa première entrée venant de son gouvernement des îles Sainte-Marguerite en Nora. Ayant amené avec lui dans sa litière un ancien prisonnier, qu'il avait à Pignerol, lequel il fait tenir toujours masqué, et dont le nom ne se dit pas. Merci.
Et en descendant de sa litière, nous l'avons fait mettre au troisième étage de la tour de la Bertaudière, que j'avais fait meubler de toutes choses quelques jours auparavant en ayant reçu l'ordre de M. de Saint-Mars, lequel prisonnier fut servi et soigné par M. de Rosargues, que M. le gouverneur avait avec lui à Sainte-Marguerite.
Vous avez entendu. Tout ceci est très important, notez-le bien. Car ces textes sont les seuls documents officiels que nous possédions concernant l'existence de l'homme au masque de fer. Bien sûr, il aurait été intéressant pour nous de nous rendre dans le vrai cachot du masque de fer à la Bastille, mais vous le savez tous, la Bastille a été démolie en 1789. Il reste maintenant du cachot les pierres, et ce sont ces pierres que vous foulez quand vous traversez le pont de la Concorde, puisque ce pont a été construit avec les pierres provenant de la vieille forteresse. Il ne reste plus à la bibliothèque de l'Arsenal maintenant que ce registre avec ces deux inscriptions, et à l'île Sainte-Marguerite, le cachot que le prisonnier a occupé durant une dizaine d'années.
Et là, en deux visites sur le même écrivain, cela fait au moins la quatrième île au centre de son œuvre, après le château d'If, l'île d'Elbe, Monte Cristo et Saint-Domingue, avec un prisonnier au cœur d'une histoire romanesque à souhait. Bien sûr, Dumas n'en fait pas un illustre inconnu. Pour preuve, dans la même émission de 57, l'inconnu se présente devant le roi, Louis XIV, himself. Mais qui est cet homme de radio célèbre et nocturne qui joue ce non moins célèbre inconnu qu'est le masque de fer ?
Vous n'êtes pas sans savoir que durant les années qui ont précédé votre venue au monde, le roi Louis XIII ne demeurait plus avec la reine. Et que la naissance de Louis XIV ne fut due qu'un heureux hasard.
C'est exact, oui.
Le rapprochement entre le roi Louis XIII et Anne d'Autriche ne fut amené que parce que la reine venait d'avoir la preuve qu'elle pouvait avoir un enfant.
La preuve ? Quelle preuve ?
Oui, car elle venait de mettre au monde un fils.
Un fils ? Comment cela ? De qui ?
De Monsieur de Mazarin. La reine et le cardinal, également pénétrés du souci de cacher au roi l'existence de cet enfant, l'auraient fait élever secrètement.
Quel conte extravagant !
C'est aussi mon sentiment, sire. D'autant plus que notre ressemblance est si ahurissante. Aussi, je crois une seconde explication infiniment plus plausible. Et quelle est-elle ? Nous sommes deux frères jumeaux, sire.
Jumeaux ?
Oui. Je tiens le fait d'une suivante de Madame notre mère. Je pourrais vous l'amener si vous en manifestez le désir. Je suis né 8h30 après vous. Vous aviez déjà été ondoyé, présenté à la cour, confié aux mains de votre nourrice et de votre maison. Lorsque notre mère fut prise de nouvelles douleurs, et je vins au monde, créant une situation inextricable.
Mais pourquoi inextricable ? Embarrassant, tout au plus.
Inextricable, sire, parce que c'est l'enfant né le second qui est l'aîné.
Puisqu'il a été conçu le premier. Ainsi, vous seriez l'aîné.
Oui. Mais personne n'avait assisté à ma venue au monde. On ne connaissait que vous. On préféra me faire élever loin de tous en secret. On ignorait alors qu'un jour, nos deux visages seraient aussi identiques.
Et maintenant ?
Maintenant, Louis XIV, c'est moi.
Vous avez raison, sire. Je ne suis plus roi de France. Veuillez prévenir, monsieur de Louvois. Je crois comme vous que la seconde solution est la bonne. En vous regardant, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Monsieur de Louvois, faites arrêter immédiatement cet homme.
Sire, mais...
C'est un bâtard du défunt roi. Il ose me menacer, inventant je ne sais quelle sornette. Vous oubliez, monsieur, que je suis votre portrait et que vous ne pourrez jamais rien contre cette frappante ressemblance. En effet, vous lui ferez mettre un masque sur le visage jusqu'à sa mort et il mourra masqué. Vous entendez ? Masqué. Que l'on ne sache jamais ce qu'il sera devenu. Vous entendez, monsieur de Louvois ? Jamais.
Eh bien oui, il s'agit de José Arthur dans sa période acteur. En 98, l'homme au masque de fer est adapté une cinquième fois au cinéma avec rien de moins que Jeremy Irons, John Malkovich et Depardieu en mousquetaire et Leonardo DiCaprio entre Roméo et Juliette et Titanic. France 2 en présentait le tournage au JT de 13h le 9 juin 97.
Entre deux scènes de tournage, gardes et mousquetaires oublient la Bastille reconstituée dans les studios d'Arpajon. Repos pour les cinq stars réunis pour l'homme au masque de fer. Ouais. Personnage joué par Leonardo DiCaprio, qui est en même temps son frère, le roi Soleil. Tel que Alexandre Dumas l'avait imaginé dans son roman, adapté très librement par Randall Wallace.
Je joue le rôle de deux frères qui sont complètement différents. J'ai donc beaucoup de travail à faire. Ils ont l'air identiques, mais je dois leur donner des caractéristiques et des traits différents pour en faire des personnalités à part entière. C'est un défi, mais ça me plaît.
Merci. Vous remettez au départ, s'il vous plaît.
Les quatre mousquetaires ont pris de l'âge. Ils se préparent à protéger et à sauver l'homme au masque de fer. Gérard Depardieu et Porthos, le bon vivant.
C'est un homme qui est assez triste de vieillir. Il a un coup de buis pendant une minute, et puis après, il repart de plus belle.
C'est un personnage sympathique, Porthos.
Deux acteurs américains plus sérieux font bande à part. L'un est Aramis.
Il est un homme avec un grand goût. On peut dire ça, un grand goût. Pour la vie, pour l'action, pour l'excitement, pour la spirit, pour la dieu, pour tout. Je vois Aramis comme ça.
Et John Malkovich, comment voit-il son Athos ?
C'est un homme très secret. Au cours de cette histoire, son fils meurt. Alors, il est dans un état de profonde souffrance.
Ainsi se termine presque cette 20e visite de la saison 6 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa et sur radioalpa.com partout ailleurs. Elle est diffusée le samedi et le lundi midi ainsi que le mardi à 17h30. Le podcast arrive très vite en ligne. Mais nous ne quittons pas sans musique. Alors, comme on a été très sérieux cette fois-ci, même avec France Culture, je nous permets de nous dégourdir les ripatons avec un groupe qui, lui aussi, a fait l'Espagne, les Charlots et leur balade des Valets en 74. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et détournez la devise inventée des mousquetaires comme une valeur de solidarité.
Comme l'a dit Montgrédien, qui est le dernier historien à s'être occupé de l'énigme du masque de fer, en additionnant des hypothèses et des suppositions, on ne construit absolument pas en matière historique une certitude.
Depuis la nuit des temps, ce fut toujours pareil. Les petits sont à l'ombre
et les grands au soleil.
Et même sous le roi le plus juste, Louis XIII,
Louis XIII,
eh bien avec le pauvre peuple, on en prend à son aise.
Qui gagne la bataille au plus fort du combat,
toujours le général,
mais jamais
sont reçus par le roi pour ceindre des lauriers que nous, pauvres valets, nous ne pouvons porter.
Qui gagne les médailles, c'est l'issue du combat.
Toujours le général,
mais jamais le soldat.
Des honneurs, des bravos auront les bénéfices.
Mais entre nous, amis, gens de rien et valets,
sachez que nous valions de près ce qu'il valait.
Même si la médaille, à l'issue du combat,
revient au général,
mais jamais au soldat.
Hey,
la 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 la.
Le cardinal et ses décrofondus sont encore bien vivants et protègent le roi.
C'est à chacun de nous que chacun d'eux le doit.
Planchet pour D'Artagnan, Mousqueton pour Porthos,
Bassin pour Aramis,
Écrivain pour Athos.
Hey, la 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 la.
La célèbre formule des mousquetaires.
Alors, un pour tous, tous pour un.
Ok, au revoir.